important.
Bon, attendez, alors on commence par le planning. Moi, ce que je propose, c'est de faire, de noter pour chaque semaine qui est là, en principe. Et après, on s'arrangera de voir qui va quand.
Moi, première semaine de juillet, jusqu'au 5, je suis là. Et je suis en congé.
Parce que toi, tu pars après, Claire, c'est
enfin,
ça
moi, je suis... Non, je peux faire aussi celle du 6 au 12 au lieu du 3 au 5. Je pars à partir du 15.
Si, si, parce que moi, je veux bien faire du 30 au 5.
Ah, bah alors.
Attends, Sarah et Claire,
Sarah,
le 30 juillet.
Et Arnoux.
Et Arnoux, ouais. Le 30 juillet. Et Claire, le 6 août, ça, ça me
voilà,
vient aussi.
Voilà, c'est ça.
Voilà, c'est bon. Okay. Avec
Moi, je veux bien.
Muriel.
Et donc, les citernes sont remplies maintenant.
C'est l'enfer.
Il y a un robinet dans le parc Germont, en fait, qui appartient à la commune. Et on remplit au tuyau d'arrosage.
Non,
elles sont pleines et c'est fini, c'est jusqu'à l'année prochaine.
Mais surtout, c'est pas simplissime. C'est-à-dire que le robinet qui est ici, c'est un poussoir. Donc on ne sait pas l'utiliser pour le brancher. Donc Arnoux vient avec du matériel de plomberie. Démonte le poussoir et met un robinet à vis, mais où il faut mettre de la filasse, enfin, c'est quand même un peu, ça s'improvise pas. Et il faut aller ouvrir la vanne, et là il faut aller dans la jungle au fond, ouvrir une espèce de trappe, ouvrir la vanne pour que ce robinet là fonctionne, et là tu remplis. Mais normalement on doit le faire une fois par an.
L'eau qu'on a là c'est pour l'année.
C'est pour l'été. Donc c'est l'autre truc que je voulais dire par rapport à l'arrosage, c'est qu'on fait gaffe quoi. Quand on arrose pas le midi, on vient arroser le soir. S'il a plu, on décale en fonction de si c'est une grosse pluie, on décale de 3 ou 4 jours. On ne fait pas un arrosage à l'aveugle parce qu'on essaye de maintenir nos deux citernes. Non, faire le remplissage, c'est compliqué. Hein.
Et corniche alors?
Bon, c'est qui l'interlocuteur et ce qu'on a fait?
Ce qu'on a fait? On n'a rien fait.
Il y a eu un premier mail la première année, ouais. Pour demander si c'était envisageable.
De faire une citerne en fouille.
On en est là, hein. Oui, c'était ça. Hein. La seule chose qui a été faite, c'était leur demander est-ce que vous êtes d'accord pour une citerne en fouille? Et ils ont dit il faut qu'on voit ensemble, mais pourquoi pas. Et on en est là, il n'y a rien de plus.
Et c'est qui?
C'est Pierre. C'était Pierre.
Mais à la régie foncière, on a un contact.
J'ai un nom, oui, j'ai un nom.
Mais... Et on n'a pas eu de réponse.
Ouais, moi j'ai essayé de rappeler, mais ça répondait pas. Et puis j'ai plus réessayé parce qu'en fait, je n'y crois pas. C'est ça le truc, c'est que je ne crois pas qu'on va pouvoir se raccorder à une corniche. Donc, j'arrive pas à... On a déjà regardé 1000 fois ensemble, hein, donc. J'y crois pas.
Moi, je veux bien essayer, hein.
Oui. Ah, oui, parce que moi, je vais pas le faire, quoi.
Bah, apparemment, non, donc.
Mais moi, je serais. Moi, ce qui me plairait, c'est qu'on dise, ouais, allez, ok, l'hiver prochain, on fait une demande de permis pour un toit à tel endroit. Et...
Mais bon, l'alternative, la petite cabane, pourquoi pas, mais ça veut dire, effectivement, faut plancher, enfin...
C'est lourd aussi.
Voilà, c'est aussi...
Mais en même temps, on aurait un abri. On se donne longtemps hein, pour le faire, hein. On se met pas la pression. Hein.
Parce que c'est un truc qu'il va falloir renégocier avec tous les acteurs, à mon avis, et avec la commune, et la régie. C'est vraiment le truc où tu dois mobiliser... Tous les intervenants, il n'y en a pas un.
Bon, mais écoutez, moi je me mets comme objectif en septembre de savoir si la régie va bouger ou pas. Comme ça, en septembre, on lance éventuellement un truc de permis d'urbanisme.
Et si on fait un permis, moi je veux bien faire une bonne partie du boulot si on n'est pas dans des délais de malade. Quoi. Je veux bien faire le dossier. Anna fera le dessin. Et puis peut-être que... Qu'on aura le permis un jour, qui sait, qu'on pourra s'installer.
Alors là, il y a une mine.
Alors, vas-y.
Alors, faut faire... Oui, c'est ça, attention, ici il y a des anémones du Japon.
Ouf.
Donc je sais pas.
Mais tu vois, quand on parlait de la terre, il y a un moment où moi j'ai l'impression qu'on tape sur quelque chose là, hein, ici.
C'est normal. Anna. Et là je tape sur quelque chose. Hein. Là je suis déjà sur du dur.
Moi, je fais des purées. Matrice, hein, purée, toi.
Ouais, purée. Ah oui, oui. Et dans le stump.
Gratin dauphinois.
T'en mets un peu.
Tu fais un gratin dauphinois au lieu des pommes de terre. Tu mets des topinambours.
Ah ouais, non, ça doit être une tuerie.
Avec de la crème, de l'ail. Non, moi, soupe, c'est très bon aussi. J'ai tout topinambour avec un peu d'échalote, un peu de curry, de la crème. Et non, moi, c'est un délice.
Oh, mais il y a encore un là.
Ah, j'en ai pas mangé.
Il commence à avoir des murs.
Là, les murs commencent tout
dans 15 jours. Ouais.
Et les framboises, c'est sûr.
Attends, moi, j'ai quand même une annonce à faire.
Ah, ah.
Une nouvelle. C'est une étude qui a été faite en Allemagne, à Berlin, alors par un truc qui s'appelle l'Université technique de Berlin. On mesurait des taux de concentration élevés de métaux lourds dans certains légumes produits au cœur de la capitale allemande.
Et si on n'est pas un peu protégé comme ça, un peu enclavé, au moins pour les voitures et
Ils disent dans l'article que par exemple les grands bâtiments, ça peut empêcher. Mais enfin bon, on est quand même à côté de la petite ceinture aussi, on peut se dire ça. Il y a les avions qui passent au-dessus de. Après, moi, je peux vous donner quelques taux qui sont là. Donc en moyenne, les carottes, 4,7 fois plus de plomb, 3 fois plus de cuivre, 3,2 fois plus de cadmium, du thym avec 3 fois plus de cuivre, les betteraves affichent 6,1 fois plus de zinc, 5,3 fois plus de plomb. Tu vois, bon, c'est quand même... bon, moi, je lis ça, franchement.
Mais toujours est-il, on sait que le taux de cuivre, de zinc, de cadmium, de tout ce que tu viens de citer, dans ce terrain-ci est très réduit et très en profondeur.
Le problème en ville, c'est pas la terre, c'est l'air. C'est l'air. Moi, c'est les bagnoles le problème. Enfin, pour moi, c'est les bagnoles et les avions.
Mais prends les milieux ruraux, prends la campagne belge. T'as déjà vu où sont les champs et où circulent les bagnoles et les camions? Il n'y a pas de campagne en Belgique.
Moi, j'ai l'impression que voilà, notre génération, au niveau de ce qu'on a mangé depuis qu'on est gamin, c'est pas joyeux. Je sais pas si ça va s'arranger ou pas, mais personnellement, moi, j'ai aucun mal à manger un légume d'ici en me disant qu'il y a peut-être un peu de pollution urbaine dessus, parce que j'ai pas l'impression que ça va changer beaucoup le cancer que j'aurai de toute façon à la fin. Et j'ai pas l'impression, à moins d'aller lire vraiment plus avant ce que c'est cette étude et de faire des analyses sur les légumes d'ici, que c'est un argument qui me ferait dire moi j'arrête le potager, c'est immangeable ces trucs.
Nous, on avait un point qu'on pouvait soulever qui rejoint un peu ce que tu dis, c'était finalement quel est le but du potager quoi. Est-ce que c'est pour se nourrir vraiment ou est-ce que c'est juste pour le côté participatif? Et je trouve que ce truc de la pollution, ça peut lier aussi à cette question-là quoi. Je sais pas ce que tout le monde en pense.
De toute façon, se nourrir, jusqu'ici on n'a pas réussi, donc a priori on s'est pas empoisonné, c'est ce qui nous sauve. Allez, je sais pas comment dire, l'instrument qu'on est, parce que c'est vraiment, ça fait chouette de dire qu'il y a des gens qui font des potagers. On vient juste faire une petite vitrine jolie de... On va dans le bon sens, alors que tout le reste va dans le mauvais sens par rapport à l'environnement. Et peut-être, alors j'en sais rien, on déconne aussi avec Laurence, mais de dire, bon, et bien à partir de maintenant, on ne fait plus que des fleurs et on ne fait plus rien qui soit alimentaire. On fait un terrain de pétanque parce qu'on se rend compte que nous, ce qu'on a besoin, c'est d'un lieu extérieur parce que personne n'a de jardin et qu'on est heureux de se retrouver ou je ne sais pas quoi.
Moi, je trouve que par rapport aux études, il faut aussi savoir quoi par rapport aux légumes. Quoi. Il y a des légumes qui pompent plus les crasses que d'autres et on pourrait beaucoup plus cibler ce qu'on plante par rapport à ce qu'on sème par rapport à ça. Et manger complètement sain, c'est impossible. Enfin, je pense que si c'est l'objectif de quelqu'un qui est dans un potager, enfin oui, tu peux arrêter, manger complètement sain. Je pense que c'est impossible dans le monde dans lequel on vit, à moins de faire des trucs en laboratoire, quoi, et encore.
Malgré ces nouvelles, les jardiniers continuent à récolter et à manger leurs légumes,
sous le regard bienveillant des voisins. Les années passent, le groupe a évolué, le potager est toujours là, au beau milieu de la ville.
Jardin, à l'ombre des arbres, près des outils, près de l'eau. Tous ensemble, donc avec vous, on va planter des radis.
Voilà, on a fait des chemins pour pas marcher là où on cultive.
Pas sur la terre ici.
Non, non, dans le chemin.
Voilà. Alors regardez, ça c'est les petites graines de radis. Et vous la tenez bien dans vos petits doigts, hein, pas la perdre par terre. Hein. Prends-en une, Antonio. Je veux la mettre là. Attends ton tour. Comment tu t'appelles?
Babette.
Vas-y Babette, mets-la là, ici. Parce que tu vois, il y en a déjà une là. Très bien.
On la met dans la terre. Ici, il y a des
pousses. Vas-y, continue alors.
Pas jouer avec les bâtons.
Très bien. Je ramène un peu de terre sur vos petites graines. Un tout petit peu. À toi Louise. Un peu plus fort, hein. Plombé comme avec du plomb.
Moi j'ai encore rien vu. Je dois détruire ce truc. C'est dur quand même. Après je peux avoir ton arme.
Bon, quoi? C'est pas une arme, c'est un outil, hein, mon petit
gars. Oui,
tu veux essayer donc?
Oui, ça va, je sais. Alors qu'est-ce qu'on a?
Hop, et maintenant
alors
tu passes
moi
au copain.
Moi j'ai rien.
Moi j'ai un petit peu d'un insecte, je sais pas.
Vous savez qui est la verre de terre?
Là ici.
Ah ouais, ici alors, un petit aussi.
Fais gaffe, tu vas voir un verre de terre.
Ah,
je vais aller, je vais me massacrer.
Non, 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 surtout pas.
Regardez. Où est-ce qu'il est?
Il est là, hein.
Attends.
Vous voyez, on le voit.
Mais moi je vais le débrancher.
Non, non, laisse-le rentrer dans la terre, comme ça on voit qu'il rentre dans la terre.
Allez, remets-le dans son trou.
Il faut jamais le tuer, hein, les vers de terre.
Allez, remets-le dans son trou.
Ouais. Et ça, si, c'est quoi? C'est comme un petit ver, mais à mon avis, ça c'est une petite limace qui va devenir toute grosse après.
Un ver de terre, deux. Non, ne touche pas, c'est dégoûtant. Laisse-le. Ah, bleu.
Voilà, il y en a plein là, ils sont.
Attention, voilà.
Un jardin en ville de Laurence Langlois et Sonia Ringot, avec l'aide de Muriel Alliot, Mathieu Hessler, Magali Skurmans, Dominique Gutt, Kojo Degbe, Caroline Jadot et Karine Vink. Mixage Aline Gavroy, avec la participation des jardiniers de Saint-Gilles et des habitants de la cité Fontenasse. Un grand merci à eux, ainsi qu'à Axel Classe, l'atelier Grafouilly et Aurélia Balboni. Avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Une production Plutôt Telate 2015.
Quand j'ai rencontré la première fois cette plante et qu'on m'a dit c'est une saloperie, tandis que moi je la voyais tellement incroyable, tellement belle, grande, généreuse, je me suis dit elle est comme moi. Et en fait, elle peut être un peu débordante, elle peut peut-être un peu gênée par sa manière d'être, mais en même temps, elle est là et elle a aussi des qualités. Je m'appelle Liliana Mota, je suis née en Argentine, à Buenos Aires. C'est difficile à dire qui je suis, c'est souvent difficile pour une grande partie des gens. Dès qu'on se trouve dans une démarche un peu en marche, un peu à côté, on a toujours du mal à se dire « je suis artiste, je suis botaniste, je m'en occupe des plantes ». Je veux dire que ce n'est pas que j'ai ces deux qualités, artiste et botaniste, mais c'est plutôt que je ne me sens pas ni l'un ni l'autre. Donc tu vas voir que ça a beaucoup poussé depuis la dernière fois qu'on était là, avec la pluie, c'est étonnant quoi, la pousse qu'ils ont fait. Les mauvaises herbes, c'est vrai, c'est vraiment quelque chose qui nous accompagne depuis qu'on est sur Terre, quoi. Depuis que l'homme est là et qui a dû s'alimenter. Il a toujours eu autour de lui un cortège végétal qu'il va aimer, détester ou qu'il va les laisser complètement indifférents. Mais c'est toujours comme ça, ça on ne peut pas faire autrement. Donc quand on dit la définition d'une mauvaise herbe, c'est une plante qui ne se trouve pas à sa place. On la catalogue, on la classifie des mauvaises. Tout ça, c'est des adjectifs qu'on donne aux humains, mauvais et bon. On les applique aux plantes parce que, tu sais, les plantes nous sont très étranges, quoi. En même temps, elles sont omniprésentes dans notre vie, mais en même temps, on ne sait pas du tout. Elles ne parlent pas, elles nous échappent, elles font souvent le contraire de ce qu'on veut qu'elles fassent, elles ne poussent pas là où on veut, elles ne donnent pas des fruits, elles ne donnent pas des fleurs quand on veut des fleurs. Donc, il y a toute une relation compliquée avec ce monde qui, en même temps, tellement là qu'on ne voit plus et en même temps qu'on ne domine pas. Le problème, c'est que ces plantes-là, on n'arrive pas à les dominer. Elles marchent, elles font ce qu'elles veulent. C'est un peu comme les femmes. Vous voyez, les femmes, on dit souvent, il faut que tu restes là. En fait, non, elle ne veut pas rester à faire la vaisselle. Elle ne veut pas s'occuper que des enfants. Elle veut faire autre chose. Et c'est aussi le problème aussi avec les migrants. On est toujours indigène quelque part et étrangère quelque part d'autre. Il faut toujours penser que cette situation de commodité dans laquelle aujourd'hui nous vivons, elle peut toujours changer. La connotation négative qu'on applique à ce type de mouvement, elle est erronée.
Je vais chercher un sécateur pour couper un peu à polygonome.
Regarde comme elles sont belles là. Tu vois comme elles sont creuses, quoi, les tiges, quoi. J'ai fait une rencontre il y a quelques années avec une plante que je trouvais très belle. J'ai demandé qu'est-ce que c'était à la personne, au voisin, parce que là où elle était, cette plante, il n'y avait personne. Donc j'ai demandé, est-ce que vous connaissez le nom de cette plante? Et cette personne m'a dit, c'est une saloperie. Donc j'étais très intriguée puisque c'est pas le nom d'une plante saloperie. J'ai demandé au Muséum d'histoire naturelle quel était le nom de cette plante. C'est là où ils m'ont dit ça c'est un polygonome. Les polygonomes, c'est des plantes qui se trouvent un peu délaissées aujourd'hui, mais c'est des plantes qui ont été introduites au 19e siècle et qui ont une grande qualité esthétique. qui ont été aussi utilisées par les apiculteurs, parce que c'est des plantes qui restent en fleurs très tard pendant l'été. Et en fait, le nom polygonome signifie poly beaucoup et gonome genoux. C'est l'image en fait qu'on a de la tige qui a plusieurs nœuds, un peu comme des tiges de bambou. Et ces nœuds sont souvent protégés par une ochrea. L'ochrea, c'est une espèce de chaussette qui entoure la tige. Et cette chaussette, elle peut être plus ou moins décorée. Et c'est aussi une manière de les reconnaître de manière botanique, je veux dire visuellement aussi. Des polygonomes, il y en a qui sont connus. Par exemple, la rhubarbe, c'est une polygonacée. Une autre plante qui est connue dans la famille des polygonacées, c'est le sarrasin. Je me suis dit, je vais les assembler, je vais constituer la famille qu'ils ont perdue. Et moi, ça me donnera les racines que je n'ai pas. Ça me donnera une famille botanique, puisque je ne suis pas d'ici. Cette famille deviendra ma famille botanique. Regarde comme c'est beau là. Par exemple, tous ces assemblages des feuillages différents et des couleurs, tu as vu, ça fait comme une trame quoi. J'aime beaucoup cet effet presque de pixelisation du paysage avec tous ces branchages, ces feuillages, ces fleurs. J'aime bien cette harmonie qui s'est produite dans un moment et où on ne voit plus du tout la trace du jardinier non plus quoi. Je trouve ça très beau. J'aime pas trop le côté intervenir, laisser ma trace, laisser ma cicatrice dans l'espace. Je sais pas si c'est un côté féminin, on va dire. Les hommes ont toujours, je veux pas critiquer les hommes, mais quand même, les hommes ont toujours un regard beaucoup plus, regarder le grand paysage. Peut-être que aussi regarder le détail, ce qui est tout petit, est aussi intéressant. Lui, par exemple, tu vois, il est magnifique. Il s'appelle ça l'arbre au faisan, ou l'arbre aux lanternes, puisque la floraison est vraiment, on dirait, une lanterne. Et les fruits sont comestibles. Et il est magnifique, là. Il est énorme, avec des grandes feuilles, avec plein de fleurs. Il s'est planté tout seul. On pourrait dire, si je ne voudrais pas qu'il soit là, c'est une mauvaise herbe. Puisqu'il n'est pas à sa place, là. Je ne l'ai pas planté là. Mais lui, par exemple, il trouve que c'est la meilleure place au monde, puisqu'il s'est planté tout seul. Vu son feuillage et la floraison et la fructification incroyable qu'il a fait, il a raison. Il a bien choisi sa place.
Attends, attends.
Là, il y a des figues qui vont arriver. Ils sont pas encore mûrs. Cette relation aux mauvaises herbes est une relation évidemment d'usage, autant pour les jardiniers, autant pour les agriculteurs. Je pense que les botanistes ne parlent pas des mauvaises herbes, parce que normalement, on considère qu'une herbe est mauvaise à cause d'une activité qu'on veut réaliser. Par exemple, aujourd'hui, on pense que ces plantes-là qu'on catégorise d'invasives sont plutôt des signes d'un milieu qui est perturbé. Et il y a eu un problème, s'il y a eu un problème d'équilibre, elles sont là et elles vont être des passagères vers un autre stade. On a beaucoup de mal à s'expliquer ces phénomènes et on a, pour les dénoncer, ces phénomènes, on applique un langage extrêmement guerrier, extrêmement politisé, qui est très dangereux parce que ça ne reste pas au niveau de la nature, malgré qu'on fasse partie évidemment de la nature, mais ça passe au niveau social et culturel. Regarde les florissons là. C'est beau ça, elle est très cachée. Tu as vu, si je n'aurais pas dit, tu n'aurais pas regardé. Et ils sont très rouges, presque, regarde, presque fuchsia là-bas. Et après, elles deviennent plus roses là. Elles sont très chuteuses. Hein. Attends, je vais attraper encore. Waouh, la quantité. Là, elles ont l'air plus fermes. Et ici, pour exemple, c'est intéressant, là. C'est ce qu'on trouve dans les fossés. Parce que comme les fossés sont toujours humides, et en plus, ils longent toutes les propriétés et ils véhiculent donc une quantité de semences incroyable avec l'eau et le vent. Tu trouves une quantité de plantes qui s'installent. C'est ça qui est rigolo d'enseigner aux enfants. Par exemple, là, tu as plein d'orties, mais tu as souvent à côté des romex. Là, tu vois, tu as des plantes de romex. Et c'est des polygonacées aussi, les romex. Donc, elles ont beaucoup d'acide oxalique dans les feuilles. Là, regarde, là, tu as des grandes feuilles aussi. Et donc, quand tu te piques avec l'ortie, tu prends une feuille de romex qui, comme par hasard, se trouve toujours assez près. Tu frottes avec et tu sens plus la brûlure de l'ortie. Donc, c'est intéressant, ces associations végétales qui nous sont profitables. Tu as du plantain aussi, qui a plein de propriétés médicinales. En fait, avant, c'est ce qu'on appelait la pharmacie du pauvre, quoi. Parce que les gens avant n'allaient pas à la pharmacie comme nous, chercher pour les douleurs. Il y avait beaucoup de récoltes qui se faisaient dans la nature pour soulager des timons, quoi.